d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, qu'on a parcouru au mois de décembre et qui nous offre beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Ésaïe, l'espoir pour le monde. Et pour pouvoir aborder le 43e chapitre d'Ésaïe, j'aimerais faire une petite précision sur la chronologie. Ésaïe a exercé son ministère pendant de 739 à peu près 686. C'est-à-dire un ministère d'une cinquantaine d'années sous le règne des rois Ozias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Il a donc, pendant cette période, vu le départ en captivité, 722, des 10 tribus du Nord, le royaume d'Israël, emmené en captivité en Assyrie. Ici, nous avons les rois assyriens. Il a aussi annoncé la déportation du royaume du Sud en captivité à Babylone, et notamment à la fin du règne d'Ézéchias, c'est-à-dire vers 701 avant Jésus-Christ. Voilà l'époque dans laquelle se situe notre chapitre 43. On est dans ces eaux-là. Le roi Sanchérib a été repoussé d'une manière extraordinaire. Et Ésaïe va prophétiser merveilleusement dans ce livre. Il va d'abord annoncer effectivement le jugement par Nebuchadnezzar. Ça, c'est le début du règne du royaume de Babylone. Et cette période-là, c'est la captivité. Il va annoncer la destruction de Jérusalem et du Temple et le départ en captivité pour 70 ans du royaume du Sud. Mais ce qui est extraordinaire encore, c'est qu'il va aussi annoncer le rachat et le retour de captivité. Alors, on a vu, Ésaïe prophétise à peu près en 700 avant Jésus-Christ. La déportation à Babylone s'est faite en 586. Le retour se fera à partir de 536. C'est-à-dire, il va prophétiser des événements qui vont avoir lieu un siècle et demi plus tard. Et notamment, il va prophétiser la montée, l'hégémonie du règne des Perses. Le roi des Perses va renverser Babylone et il va ordonner, le roi Cyrus, roi de Perse, va ordonner le retour de captivité du peuple hébreu. Ça, c'est extraordinaire. Il annonce le rachat et le retour de captivité parce qu'il entrevoit celui qui va payer pour les péchés de son peuple, à savoir Yeshua HaMashiach, le Messie Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, qui sont prophétisés notamment dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Dans notre passage, Ésaïe voit par avance le peuple en déportation, donc, à Babylone, ce qui arrivera environ un siècle plus tard. Il voit aussi la chute de l'Empire babylonien, l'émergence de l'Empire médo-perse, avec à sa tête Cyrus. Ésaïe nous montre que Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît l'avenir, et si vous avez Ésaïe dans vos Bibles, cherchez Ésaïe 46, verset 10, il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et voilà cette promesse extraordinaire. il dit, je connais toutes choses. Je peux les annoncer à l'avance. Il les a annoncées un siècle et demi à l'avance. Il a annoncé celui qui libérait Israël, qui n'était pas né. Il donne déjà son nom, Cyrus. Vous imaginez la chose. Dieu connaît aussi notre avenir. Il accomplira sa volonté. Il tient le monde entier entre ses mains. Même ses ennemis lui sont assujettis. Il tient nos vies entre ses mains. Il contrôle absolument tout ce qui se passe et ce qui nous arrive. Il est le souverain. Dans notre passage, Dieu fait des promesses à son peuple. Et si nous lui appartenons, ces promesses, elles sont aussi pour nous. Et si vous ne lui appartenez pas encore, considérez alors ces promesses avec attention et faites de l'Éternel votre Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je voudrais commencer la lecture et voir les premières promesses pour notre avenir. En Ésaïe 43, et je vous propose de lire les versets 1 à 7 pour commencer. « Ainsi parle l'Éternel, ce qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. » Dans cette section, Dieu adresse à son peuple des paroles très affectueuses. Magnifiques paroles. Ils sont loin de chez eux, ils les voient déjà loin de chez eux, ils les voient en captivité. Ils connaissent des épreuves. Ils connaissent les eaux profondes, ils connaissent les flammes du feu. Mais il leur parle ainsi, « Tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, je t'aime et je suis avec toi. » On ne trouve pas ici de promesses de restauration immédiate et rapide. On ne trouve pas non plus d'avenir sans nuages. Non. Mais on trouve l'assistance, la promesse de l'assistance constante de Dieu jusqu'à la fin du voyage, quoi qu'il arrive. Nous sommes nous aussi, en quelque sorte, dans une forme d'exil, loin de notre cité céleste, dans un monde hostile où le péché poursuit son œuvre destructrice. Mais il promet de nous rassembler, de rassembler tout son peuple, tous ses rachetés. Nous avons été créés pour sa gloire. Nous connaîtrons la gloire éternelle. Nous qui l'a rachetés, qui l'a recréé en Jésus-Christ. Et nous servirons à célébrer aussi la gloire de sa grâce, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Il est notre sauveur. Il dit qu'il a payé la rançon pour nous. Pour libérer Israël de la captivité babylonienne, il a utilisé Cyrus, le roi de Perse, et puis il a permis à Cyrus de renverser le royaume babylonien. Et puis il dit ici, je donne des peuples. Hein, verset 3, il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Pour pouvoir libérer Israël de Babylone, Dieu dit à Cyrus, « Cyrus, libère Israël et moi je te donne l'Égypte l'Éthiopie et Saba. Alors Cyrus donne et renvoie tous les Juifs à Jérusalem. L'Égypte, l'Éthiopie et Saba, ça représente un empire très étendu. J'ai fait le calcul, c'est à peu près 100 fois plus grand qu'Israël. Et au niveau de la population, c'est 25 fois plus de population qu'Israël. Voilà la rançon que Dieu paie pour libérer son peuple captif. Mais pour nous libérer de l'esclavage, du péché, il a donné son Fils. Ce que Dieu, ce que l'univers avait de plus précieux, il a tout donné. Il a donné Christ pour nous racheter. Vous savez, quand on est aimé à ce point-là, nous n'avons absolument rien à craindre. Ne crains pas, il le redit plusieurs fois dans ce passage, ne crains pas. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On est tellement aimé de la part du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Souverain. En Romains 8, 32, Paul dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Quels que soient les jours difficiles que vous pourrez connaître en 2016, vous êtes aimé des dieux et il sera avec vous. Il a donné son Fils. C'est le gage, c'est de la promesse qu'il nous fait. Je serai avec toi. La deuxième promesse qu'il nous fait, c'est je ferai de toi mon témoin. On voit ça dans les versets suivants, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? Ils sont ses témoins. Le peuple est ses témoins. Et ils doivent témoigner de quoi? Ils doivent témoigner, il n'y a pas de Dieu ni de Sauveur, si ce n'est l'Éternel seul, le Seigneur. Voilà la scène que présente Ésaïe dans ces versets 8 à 10. Le Seigneur, il est mis en accusation. Il est devant le tribunal. Il se revendique comme le seul Dieu. Mais on l'accuse de mentir. Il y a ses rivaux, les dieux païens, qui ont beaucoup de témoins parmi les nombreux peuples dans lesquels ils sont, ces idoles sont adorées. Lui, le Seigneur, il n'a qu'un peuple. Et il dit, son peuple, il est aveugle, il est captif, aveugle et sourd. Et chaque témoin doit venir. Et le peuple d'Israël doit venir se présenter et être un témoin à la cour. Vous imaginez un peuple captif, un peuple aveugle, un peuple sourd doit témoigner de l'Éternel. Là, il y a un grand silence dans le tribunal. Tout le monde pense la cause de Dieu est perdue. Parce que ces gens-là vont rien pouvoir témoigner. C'est sûr. Ils sont aveugles et sourds, ils ne voient pas ce que Dieu fait, ils n'entendent pas sa voix. Et Ésaïe, chapitre 59, dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. »
voyez, nos péchés, le péché du peuple, c'est ce qui l'a rendu aveugle et sourd. Ils ne peuvent pas témoigner du Seigneur. Comment peuvent-ils être ses témoins? Eh bien, Dieu dit, vous êtes mes témoins. Ces misérables témoins vont pourtant produire des éléments incontestables de l'exactitude des prétentions du Seigneur. Et comment il le fait? Il dit à tous les témoins et à tous les faux dieux, mais produisez vos prédictions, annoncez à l'avance les choses. Où sont vos premières prédictions? Dites-les-nous qu'on puisse dire, ah oui, c'est vrai. Non, rien. Silence total chez les dieux païens, incapables d'annoncer les choses à l'avenir. Et Dieu dit, moi j'annonce les choses. Je dis, Cyrus, lève-toi, libère mon peuple. Et je l'annonce tellement longtemps à l'avance. Et à ce moment-là, le peuple libéré de l'esclavage, de la captivité, se présente. Et simplement par le fait qu'il se présente libéré, on peut juste dire, effectivement, ils sont les témoins. Ils sont les témoins, ils n'ont rien pu dire, ils n'ont rien pu entendre. Mais Dieu les a libérés, il les a fait sortir de la captivité. Ils sont ses témoins. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est un témoin de la sorte, on réalise ce que Dieu a fait dans nos vies. Et puis, on dit, mais malgré moi qui suis aveugle, moi qui suis sourd, qui ai tellement du mal à comprendre les desseins de Dieu, Dieu a quand même fait de moi son témoin. Il m'a utilisé. Quelqu'un a dit, vous voulez une preuve de l'existence de Dieu? Considérez le peuple d'Israël, les Juifs. Le peuple juif est juste une preuve que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu vivant. Il annonce les choses à l'avance, il libère son peuple, il accomplit ses desseins merveilleux. Et nous, comment sommes-nous les témoins de l'Éternel? Oh, je pense à la personne de l'urbanisme qui m'a téléphoné pour m'annoncer que nous n'aurions jamais le permis de construire pour ces lieux. Je pense à une sœur de l'Église dont un membre de la famille travaille à l'urbanisme et qui s'est penché sur notre dossier et a dit à cette sœur, écoute, tu peux dire à ton pasteur que c'est cuit, c'est mort, vous n'aurez jamais ce bâtiment. Cette sœur est venue me dire ça. Et effectivement, notre demande a été rejetée. Alors on a fait un recours gracieux. Et notre recours gracieux a été rejeté. On n'a rien fait de plus que de porter notre regard vers le Seigneur. Et tout tremblant, on a redéposé un permis de construire. Et nous voilà. Et nous voilà dans ces lieux. Dieu dit, vous êtes les témoins. Rien que le fait que vous soyez assis ici, dans ces lieux, vous êtes les témoins de la délivrance que Dieu nous a accordée cette année. On était comme captifs des règlements et des lois de notre ville. Et Dieu nous a affranchis. Il nous a libérés. Nous sommes, malgré nous, les témoins de ce que Dieu est Dieu. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu qui conduit son peuple comme il le veut. Mais mieux encore que cela, Dieu nous a pardonnés. Nous, des pécheurs, il nous a rachetés par la croix. Nous qui étions totalement égarés, incapables de concevoir le salut. Les choses spirituelles n'avaient aucune saveur à nos oreilles. Nous étions sceptiques ou matérialistes, propres justes. Et Dieu a touché nos cœurs. Il a suscité en nous la foi dans sa parole. Il a produit par l'action de son Esprit Saint une conviction de péché dans nos cœurs. Et il nous a révélé l'œuvre de Christ. Et nous sommes aujourd'hui son peuple. Nous avons le pardon et la vie éternelle. Nous avons une assurance face à la mort et une glorieuse espérance. Dieu dit, je ferai de toi mon témoin. La troisième promesse qui nous est faite ici, dans les versets 14 à 21, je lis, ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur des navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, et qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Babylone va être renversée. Elle qui terrifiait le peuple d'Israël, la puissante nation va prendre la fuite devant Cyrus, et le peuple de Dieu pourra quitter Babylone pour rentrer à Jérusalem. Mais pour ceux qui vont enfin quitter Babylone, il va y avoir de nombreux obstacles. Le chemin va être difficile. Le voyage retour va être long. Vous savez, entre Babylone et Jérusalem, c'est à peu près 1500 kilomètres. C'est 4 mois de marche dans le désert. Pour un peuple qui vit de son troupeau, pensez à ce peuple, ils disent, mais dans une semaine, si on n'a pas d'eau, on est tous morts. Nos troupeaux sont morts, nos enfants sont morts, et nous, pareil. Et Dieu dit, je mettrai un fleuve dans le désert. Ils disent, mais quitter Babylone pour aller à Jérusalem, c'est être la proie de tous les bandits. Imaginez tout un peuple, une caravane avec du bétail. Cyrus même avait donné de l'or, de l'argent, toutes sortes de choses pour pouvoir rebâtir le temple à Jérusalem. Mais qui va nous protéger des brigands? Dans le livre d'Esdras qui raconte cette histoire et leur voyage au chapitre 8 et au verset 31, il est dit « Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et il nous préserva des attaques de l'ennemi » et de toute embûche pendant la route. De toute embûche pendant la route. Dieu a protégé son peuple au travers du désert, au travers des difficultés. Et à quoi faut-il s'attendre à l'arrivée? Ni foyer, ni maison, ni train de vie aisé, mais une terre qui a été dévastée. Une tâche ardue de reconstruire une ville en ruine, un temple pour son Dieu.
D'un certain point de vue, le désert, c'était quelque chose d'aussi terrifiant que Babylone. Hein. C'est pourquoi, par la bouche d'Ésaïe, et Dieu va encourager son peuple en lui rappelant qu'il a ce qu'il a fait autrefois. Vous avez vu dans le chapitre 43, il parle verset 16 et 17, il fait mention de comment Dieu a frayé une route au travers de la mer au sortir d'Égypte, comment il a terrassé tous ses ennemis et l'armée puissante de Pharaon. Mais il ne veut pas que le peuple se idéalise le temps passé, oh, le bon vieux temps. Le bon vieux temps à l'époque exceptionnelle où Moïse marchait à la tête d'Israël, comme si le Dieu des délivrances d'antan n'était plus. Il dit au verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais vous conduire, cette fois-ci non pas au travers juste d'un bras de la mer, mais au travers du désert, 1500 kilomètres, et je vais vous abreuver. Et puis je vais vous nourrir. Et puis je vais vous protéger de tous les bandits pendant toutes les 4 mois de route que vous ferez. Dieu est un Dieu dont les bénédictions se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. On ne pourra pas l'épuiser. Il conduira son peuple une nouvelle fois au travers du désert. Tout cela pour que, verset 21, le peuple que je me suis formé publie mes louanges. Quelle année s'ouvre devant nous ? On pourrait être inquiet de la situation économique du pays. Conserverai-je mon poste ? Les problèmes de santé ? Matériel, mes tensions familiales, ce ne sera certainement pas une année facile. Le voyage à travers ces 12 mois peut nous paraître effrayant. Aurai-je mon diplôme, mon affectation, l'accouchement, l'opération, l'achat, la vente, le déménagement ? Vous entrevoyez déjà certainement des situations critiques, mais les plus difficiles sont celles que vous n'avez pas encore envisagées et qui vont se produire. Mais au travers de chacune d'elles, le Seigneur va nous conduire. Il mettra des eaux dans le désert pour vous abreuver. Et nous le glorifierons. Nous le glorifierons encore. Avant qu'on déménage ici, pendant plusieurs années, on a prié, Seigneur, fais-nous connaître ta volonté. Chaque mardi, chaque fois qu'on s'est réunis en église, on a prié cela. Seigneur, on veut voir ta main. On veut voir que c'est toi qui nous conduis. On veut voir que c'est toi qui nous as conduits ici. Quelle prière on faisait à ce moment-là ? Je ne pensais pas que ce serait si difficile. Je ne pensais pas qu'on devrait voir la main du Seigneur de cette manière-là. Mais c'est ce qu'il veut. Son projet, c'est de se faire connaître à nous, de se révéler à nos cœurs, de manifester encore sa puissance, de sorte qu'on puisse le glorifier, nous aussi, de tout notre cœur. La quatrième promesse qui est donnée ici, dans les versets suivants, chapitre 43, verset 22, il dit « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu n'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. » Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même de te justifier.
ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait ce qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai les eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main, à l'Éternel, et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Apparemment, cette dernière section, elle n'est pas très encourageante. Parce que finalement, Isaïe dévoile, il rappelle l'infidélité du peuple. Il l'appelle par son vieux nom, Jacob. Jacob, c'est trompeur. Et c'est comme si Dieu lui dit, écoute, t'es toujours trompeur. Il n'y a rien à faire, même après 70 ans de captivité, t'es encore trompeur. C'est comme si, oui, si Dieu lui dit, mais tu n'apprends pas des leçons. Dans ton cœur demeurent toujours des idoles. À cause des idoles, je t'ai envoyé en captivité, tu rentres de captivité et ton cœur est encore idolâtre. Tu n'es pas fidèle. Mais Dieu dit, verset 25, c'est moi. Moi à qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Waouh ! Dieu pardonne. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il pardonne à cause de lui, pas à cause de nous, juste à cause de lui, parce qu'il est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est saint, un Dieu qui a payé le prix. Vous savez, dans l'année qui va s'ouvrir devant nous, malgré nos bonnes dispositions d'aujourd'hui, nous serons encore portés vers le mal, capables de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises actions. Nous ne serons pas totalement fidèles. Et Dieu dit, moi je le serai. Moi je le serai, je te serai fidèle. Et je te pardonnerai, chaque fois que c'est nécessaire, je te pardonnerai, et même je te transformerai, à cause de mon amour. Parce que je t'ai choisi, je te conduirai au port à cause de moi, par fidélité à ma personne, à ce que je suis. Je suis un Dieu aimant, patient, gracieux, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Alors malgré tes infidélités, je vais prendre soin de toi, je vais te bénir, je vais bénir tes enfants et je monterai mon esprit sur toi et je te transformerai. Tu pourras dire, je suis à l'Éternel parce qu'il m'a racheté. Oui, j'étais trompeur, mais je suis à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Voilà les promesses de Dieu. Je serai avec toi. Je ferai de toi mon témoin. Je te conduirai au travers des difficultés. Je te pardonnerai et je te transformerai. Afin que tous sachent. Comme il est dit à de nombreuses reprises dans ce passage. Afin que vous le sachiez, verset 10. Que vous me croyez. Compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. C'est moi qui suis Dieu. Tout cela, toutes les années que Dieu nous donne, c'est pour que nous apprenions que c'est Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et ici, Ésaïe emploie cette expression-là, « C'est moi !» Verset 10, 11, 12, verset 25. « C'est moi !» En hébreu, c'est le même mot que Exode 3, 14, où Dieu dit « Je suis l'Éternel !»« Je suis !»« C'est moi !»« Je suis !» Et c'est de cette manière que le Seigneur Jésus s'appelle lui-même dans l'évangile de Jean. Il dit « Je suis ». Avant Abraham, « Je suis ». Quand on est venu l'arrêter, il a dit « Je suis ». Ils sont tombés à la renverse parce qu'ils savaient que c'était le nom de Dieu. Et ils étaient terrorisés. Vous voyez, au fond, la finalité de notre année 2016, c'est que l'on connaisse « Je suis », que l'on connaisse l'Éternel, le Dieu incomparable, le seul qui pardonne et qui sauve, le seul qui nous conduit parfaitement, le seul qui nous aime, le seul qui est digne d'être aimé et suivi. Le seul, Jésus-Christ, digne de toute notre confiance. Jésus, dans l'Apocalypse, il reprend ces mots d'Ésaïe 44, verset 6. « Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de lieu. » C'est Jésus qui dit cela, à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Voyez-vous, je suis. Nous sommes les témoins de « je suis ».